Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvard, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Pierre Mine. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Ricard pour parler de l'altruisme envers les animaux. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour, bonjour à tous les deux. C'est une joie de vous recevoir à nouveau aux Racines du Ciel, Mathieu Ricard. Vous avez commencé, il faut quand même vous présenter, même si d'une certaine façon, tout le monde vous connaît, mais enfin, il faut quand même passer par ce passage obligé de la présentation, qui est quand même important pour comprendre votre livre, puisque en fait, au départ, vous avez une formation en biologie moléculaire, donc vous êtes au départ par formation, par goût aussi, un scientifique, et puis après, vous avez rencontré le bouddhisme et vous êtes devenu bouddhiste, moine bouddhiste, et cela dure depuis 40 ans, et c'est parti pour durer encore très longtemps, j'espère. Vous êtes internationalement reconnu, en fait, pour vos travaux, aussi parce que vous êtes l'interprète du Dalai Lama et son traducteur. Vous vivez essentiellement au Népal, je crois, bien que vous voyagez beaucoup, et vous vous consacrez surtout à de très nombreux projets humanitaires dans le cadre de l'association Karuna Schlesien. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages qui sont devenus des best-sellers. Et l'année dernière, nous vous avons reçu pour un ouvrage qui traitait de l'altruisme. Maintenant, vous revenez pour nous parler de l'altruisme, mais l'altruisme envers les animaux. Car pensez-vous, l'autre, ce n'est pas seulement l'autre, notre frère humain, mais aussi les animaux dans leur ensemble.
Ce travail sur les animaux, initialement, devait faire partie du travail plus général sur l'altruisme. Mais vu la taille du premier livre et le temps que j'y ai passé, 5 ans, finalement, je me suis dit que ça valait la peine de traiter ça séparément. Mais séparément, pas sur le fond, parce que la bienveillance, a priori, pourquoi lui assigner des limites? C'est un peu comme si on demandait, on s'imaginait que le soleil brillerait mieux s'il ne brillait que sur certains endroits, certains pays. Et en fait, il brillerait moins bien pour tout le monde. Donc, laisser de côté les animaux par rapport à notre bienveillance, ce n'est pas mieux aimer les hommes, tout au contraire.
Mais alors, on voit dans l'histoire occidentale que finalement, on est parti d'un altruisme qui se limitait à son clan, sa tribu, sa cité même. Hein. Puis les autres êtres humains sont des barbares ou on peut en faire des esclaves. Et puis, on est passé progressivement à une notion beaucoup plus d'humanisme universel. C'est toute une longue histoire qui peut-être n'a pas eu lieu du tout en Orient, mais enfin en Occident, il a fallu passer par là. Et effectivement, on voit que le dernier stade qui reste, c'est celui des animaux. Et vous retracez, j'aimerais peut-être qu'on démarre par là, un petit historique qui est très intéressant sur pourquoi, effectivement, comment on considère l'animal dans la tradition, dans la pensée occidentale, et pourquoi on a mis une telle rupture, un tel fossé entre l'homme et l'animal.
Alors, je crois que si on parle d'histoire, c'est intéressant de remonter très loin dans notre histoire, puisque la race humaine, sous ses divers antécédents avant l'Homo sapiens, existait depuis déjà un million d'années. Et il s'avère que dans 99% de notre histoire, déjà, nous étions des chasseurs-cueilleurs. Ce n'est que depuis 12 000 ans que l'homme s'est sédentarisé, l'agriculture, l'élevage, etc. Pendant ces périodes, en gros, 90% de cette histoire, les hommes étaient principalement végétariens. Ils mangeaient accessoirement un peu de viande. Ce n'est que le Néandertal qui était un très gros carnivore. Ensuite est venue donc la sédentarisation. À partir du moment où on a pu accumuler des richesses, des biens, on a domestiqué les animaux et on a commencé à les tuer. Auparavant, les chasseurs-cueilleurs, il est clair qu'ils considéraient les animaux comme différents, jamais inférieurs. Et parfois même, ils savaient bien que certains animaux étaient supérieurs pour certaines choses. Je veux dire, il leur accordait parfois un pouvoir magique, l'esprit du jaguar, le grand caribou. C'est ensuite, lorsqu'on a commencé justement à tuer un peu en masse, disons, les animaux, ou même les animaux qu'on élevait, eh bien, forcément, c'est pas facile de tuer un animal à qui vous avez vécu, vous êtes devenu familier, qui d'une certaine façon fait un petit peu partie de la famille. Et donc là, il faut quand même, parce que les gens ne sont pas des mauvaises personnes, il faut retrouver un certain un certain accord avec soi-même pour pouvoir continuer à le faire sans se sentir constamment être une personne vile et mauvaise, etc. Donc, les idées, les dogmes sur lesquels les religions, d'un point de vue, se sont greffées, ont conduit à ces idées que soit l'animal était foncièrement inférieur, soit qu'il ne ressentait pas la douleur, soit qu'il n'avait pas d'âme, là on voit apparaître les religions, soit encore qu'il a été simplement créé pour nous, donc sa seule vocation, c'est de meubler le paysage et puis d'être un instrument de notre survie, de notre bien-être. Donc à partir de ce moment-là, ça justifiait moralement l'instrumentalisation des animaux. Puis donc il y a eu quand même tout au long de l'histoire des grandes voix qui ont vu autrement, et c'est pas seulement dans les religions d'Extrême-Orient comme le jaïnisme et qui était le plus strict pour le respect des autres êtres sensibles, et le bouddhisme avec en général un respect des êtres sensibles, mais pas toujours, par exemple d'adopter un régime végétarien. Tandis qu'en Occident, c'est vrai, il y a eu toute une longue période où on a simplement considéré les animaux comme des temps de la machine à faire des saucisses, et que leur douleur ne comptait pas. Simplement, il ne fallait pas être trop cruel envers eux parce que ça nous rendait cruels, nous, êtres humains. Et donc, c'était un peu une sorte d'effet indirect qui était... Ce n'était pas bon pour l'être humain de faire preuve de trop de cruauté, mais pour les animaux, ça n'avait pas d'importance.
Oui, et là, Descartes a joué un rôle important dans l'histoire philosophique occidentale, en accentuant encore plus, d'ailleurs, que ne le faisait le christianisme, la rupture entre l'homme et l'animal.
Donc Descartes, curieusement, scientifiquement, disait que d'être végétarien, c'était bon pour la santé, mais ce n'était pas du tout sur des principes éthiques et moraux, puisque ces fameuses théories des animaux-machines, qui a été reprise ensuite par Malebranche et autres, où il disait, en gros, l'animal, c'est comme une horloge. Si ça fait du bruit parce que vous lui donnez un coup de pied, c'est parce que de vous donner un coup de pied dans un réveil matin, il fait gling-gling. Mais en gros, ça n'a pas d'importance. Donc ça a permis aussi, par exemple, à Claude Bernard, qui a tué des dizaines de milliers d'animaux avec satisfaction de certains points de vue, puisqu'il allait jusqu'à devant ses élèves crucifier des animaux, les découper vivants, et en disant, vous savez, si ça crie, c'est absolument pas parce qu'ils sentent de la douleur, c'est purement mécanique. Donc tout ce courant de pensée s'est produit en même temps, dans le monde anglo-saxon et en Europe en général, des voyageurs étaient allés en Inde, ils avaient vu ce qu'ils appelaient les brahmines, ils faisaient ça en général, toute l'Inde c'était des brahmines, qui s'occupaient des vieux animaux, ils les soignaient jusqu'à leur mort, ils soignaient les animaux sauvages, ils sont revenus en disant, mais ces gens-là ont une éthique beaucoup plus subtile, étendue que la nôtre, et nous devrions en prendre des leçons, et souvent c'était aussi une réaction contre le christianisme. Donc il y a eu un grand mouvement de végétarisme avec Isaac Newton, Percy Shelley, et bien d'autres encore, qui de nouveau, Schopenhauer, qui s'est de nouveau un tout petit peu, dissipé, et puis c'est revenu, le monde anglo-saxon, avec la libération animale de Peter Singer, et maintenant un courant finalement de par le monde, pour simplement reconnaître que les animaux, oui, ce sont des êtres sensibles, ce ne sont pas des biens meubles. Un mouton n'est pas un tabouret qui se déplace. Ils ressentent la douleur, on le sait bien. On peut même dire que beaucoup d'animaux ont une conscience finalement assez subtile, des émotions, etc. etc. Ils sont différents, ils ont même des cultures. Mais ce n'est pas les mêmes que les nôtres, bien sûr.
Et là, on peut dire que sur cette question de la compréhension de l'animal comme un être complexe, sensible, avec des émotions, etc., il y a des progrès scientifiques qui ont été faits, effectivement, au cours des dernières décennies, très importants, dans l'observation du monde animal. Ce qui fait qu'au-delà, je dirais, des perceptions intimes, de type affectif qu'on peut avoir, on a une connaissance beaucoup plus rigoureuse du monde animal.
Alors, on a fait toutes sortes d'expériences, aussi bien avec, par exemple, les grands singes. Alors, on sait, par exemple... Un fameux éthologue japonais, Tetsuro Matsuzawa, a montré notamment que les chimpanzés étaient beaucoup plus doués en calcul mental que nous. Donc ils sont capables, vous savez, en gros, un être humain, si vous lui montrez 7 chiffres sur un écran dans le désordre, au-delà de 7 chiffres, il se trompe presque tout le temps. Les chimpanzés, 15 chiffres, on les met dans n'importe quel ordre, tac, 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 tac.
Ils mémorisent.
C'est 4 fois plus vite qu'un être humain, avec beaucoup plus de succès. Donc ça, c'est une chose. On s'est aperçu que les corvidés était incroyablement malin, qu'il fabriquait des outils. Vous savez, l'homme a fabriqué le crochet il y a 30 000 ans. Les corneilles de Nouvelle-Calédonie utilisent des crochets tous les jours, qu'elles trouvent dans la nature et qu'elles façonnent elles-mêmes. Elles les gardent dans leur nid, elles volent avec dans leur bec le matin suivant. Et en laboratoire, elles ont improvisé l'utilisation d'outils, notamment de prendre un petit caillou dans leur bec pour le mettre dans un tube, pour déclencher un mécanisme qui donne une cacahuète, qu'elle n'avait jamais utilisée dans la nature. En quelques secondes, elle grade à droite, à gauche, elle trouve ce nouvel outil et s'en sert. Donc, il y a aussi les émotions, il y a le langage des baleines qui chantent pendant 20 minutes de façon ininterrompue. Ce chant s'apprend au travers de dizaines de milliers de kilomètres. Il change, il y a des cultures où les tubes des chants des baleines changent tous les 2-3 ans. C'est un mode fortuit. Il y a tellement de choses dans le, ce qu'on pourrait appeler la culture animale qui sont différentes.
Je ne suis pas certaine, personnellement, que le fait de nous dire que les chimpanzés ont une créativité ou que les corneilles utilisent, etc., c'est passionnant à écouter. Mais je ne suis pas sûre que ce soit l'argument, pour moi en tout cas, le plus convaincant pour cette affaire d'empathie, en fait, d'entrer en empathie avec le monde animal. Parce que, après tout, on peut toujours arguer de toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, Descartes n'en disconvient pas. Il dit les animaux ont aussi une forme, ils peuvent créer, etc. C'est beaucoup plus subtil, finalement, chez Descartes, cette affaire. Mais enfin, ça, c'est pas passant. Je voudrais que vous nous disiez, peut-être avec plus de précision, en quoi, finalement, c'est une forme, c'est ce qu'on attribue comme dimension spirituelle à l'existence des animaux, qui est quand même au cœur de votre argument, même si vous ne le développez pas tant que ça dans votre livre. Vous parlez beaucoup d'affaires scientifiques, de l'éthologie, de tous ces progrès qui ont été faits. Je ne disconviens pas que ça nous montre quelque chose. Mais bien avant ça, je crois qu'aucun grand spirituel n'aurait fait du mal, de la cruauté envers un animal, parce qu'il y a quelque chose quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Et c'est ça dont je voudrais que vous nous parliez. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'âme, par exemple? Est-ce que les animaux ont une âme? Que nous disent, que nous dit le monde spirituel de ça?
Alors, avant tout, je voudrais répondre d'abord à la première partie de votre argument, tout à fait justifié, à savoir que même si on essaie de montrer à juste titre que les animaux ont une forme d'intelligence, ils ont des capacités qui sont différentes des nôtres, des cultures différentes des nôtres, c'est pas ça qui exige que nous étendions envers eux notre bienveillance.
Oui.
Parce qu'à ce moment-là, on pourrait aussi faire des gradations entre les êtres humains, les plus intelligents, les moins intelligents, etc., etc. Ce qui compte, et ça je crois tous les grands penseurs, que ce soit bouddhistes, jainistes ou même les philosophes d'Occident, comme Jérémy Bentham, il a dit c'est pas leur intelligence, c'est pas leur pilosité, c'est pas s'ils ont une queue ou des cornes ou n'en ont pas, souffrent-ils ou non?
Voilà.
Et aussi bien, à mon avis, pour des penseurs éclairés en Occident, il y en a eu beaucoup, entre Pythagore, Ovide et les autres, Plutarque, et la spiritualité bouddhiste que je représente humblement ici, l'idée fondamentale, c'est qu'aucun être sensible qui sait faire la différence entre le bien-être et la souffrance, qui aspire à préserver son intégrité physique et mentale, souhaite échapper à la souffrance, c'est, si on résumait l'ensemble des déclarations de tous les droits humains, animaux, etc., c'est le droit fondamental de ne pas souffrir ou de ne pas être qu'on vous inflige pas une souffrance sans aucune raison qui n'a moindre sens. Donc ça, c'est le critère. Et donc, éviter à tout prix, on ne peut pas moralement infliger à des êtres une souffrance qui n'est pas nécessaire, et notamment la mort. Donc ça, c'est clair. Alors là-dessus, spiritualité, bon, vous dites qu'il n'y a aucun être spirituel qui n'ait pas eu sympathie pour les animaux.
J'ai dit les grands spirituels.
Alors, Saint-François d'Assise, pour
voilà,
sûr.
Voilà, entendons-nous sur les grands.
Enfin, il y a quand même eu des théologiens immenses qui ont dit et qui ont confirmé, comme saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, que les animaux, en fait, leur souffrance en elle-même n'était pas importante. Bon, ceci dit, franchement, en ce qui concerne ce livre, moi, c'est ce critère de la souffrance qui est, pour moi, le principal, d'où le remède, la bienveillance. Alors, du point de vue du bouddhisme, bien sûr, le bouddhiste a une position très claire là-dessus, à savoir que tous les êtres sensibles, on ne parle pas d'âme, mais d'êtres animés, c'est-à-dire qui ont cette faculté de distinguer entre le bien-être et la souffrance. Donc une conscience, un flot de conscience. La flot de conscience permet d'être conscient de quelque chose, notamment est-ce que je souffre ou non. Pour le bouddhiste, c'est la racine ou la nature fondamentale de cette conscience, c'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha, c'est-à-dire c'est la conscience libre de toute forme d'ignorance, de toute forme de haine, de toute forme d'avidité, de désir aliénant, de toute forme d'arrogance, de toute forme de jalousie, dans tout ce qu'on appelle les toxines mentales, dont le premier est l'ignorance, c'est-à-dire la distorsion de la réalité. Donc, sans aller en grand détail, c'est pas seulement un manque d'information, distorsion de la réalité, comme de ne pas connaître le bottin téléphonique par cœur. C'est une sorte de distorsion de la réalité, dans le sens qu'on prend pour permanence ce qui est impermanent, pour des entités autonomes, unitaires, ce qui est interdépendant. Donc ça réfute aussi l'idée d'un moi personnel qui voyagerait au long d'un flot de conscience, etc., etc. Donc pour le bouddhisme, tous les êtres sensibles, animaux y compris, ont cette nature fondamentale. Simplement, leur obstacle à eux, c'est qu'ils n'ont pas l'ensemble des facultés intellectuelles qui leur permettent de s'engager sur un chemin de libération de la souffrance en travaillant peu à peu sur d'abord ces toxines mentales, ensuite sur l'ignorance fondamentale quant à l'appréciation de la réalité. Donc ça, les animaux n'ont pas ce potentiel et de ce fait, ils ne peuvent pas l'actualiser. Mais ceci dit, ils ne sont pas ontologiquement différents puisqu'ils ont cette nature de Bouddha.
C'est ce que j'allais vous poser comme question. C'est le cœur du problème. Est-ce que c'est une différence de degré ou de nature ?
Alors, pour le bouddhisme, la nature fondamentale est la même, mais sur les animaux sont prisonniers un peu d'un manque de faculté pour l'actualiser.
Mais pourquoi ils n'ont pas ces mêmes facultés que les humains ? Est-ce qu'il y a un saut qualitatif pour être un être humain ?
Non, c'est simplement que si vous dites un animal, voilà, en étudiant tel texte sur la nature de la conscience ou en écoutant tel enseignement sur la façon de se débarrasser de l'agressivité, de la jalousie, etc., ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent saisir et mettre en pratique.
Mais là, on rejoint quand même un petit peu les arguments de la théologie monothéiste, hein, principalement chrétienne, mais aussi d'une autre manière juive et musulmane, qui explique que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et que l'image et la ressemblance de Dieu chez l'humain, c'est l'intelligence abstraite, c'est-à-dire capable de s'élever au-delà d'un réflexe organisationnel pour penser l'abstraction et aller jusqu'à la conscience de soi et la conscience de Dieu. Et c'est une forme de volonté qui permet d'aimer librement jusqu'à se sacrifier, par exemple. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que cette pensée, je dirais, théologique, elle a servi, si vous voulez, dans toute l'histoire de l'Occident pour montrer qu'il y avait une différence fondamentale entre l'homme et l'animal, même si on peut respecter les animaux parce qu'ils souffrent, il y a une différence de nature à cause de l'image divine. Vous traduiriez cette pensée dans
pas
le bouddhisme
tout.
Parce que
la nature de Bouddha,
vous dites qu'il y a quand même une spécificité chez l'être humain. D'où vient-elle, cette spécificité?
La nature de Bouddha, elle est la même chez les animaux et chez les êtres humains. Déjà, c'est pas mal pour commencer. Ensuite, alors là, c'est bien, intervient toute je mets ma casquette bouddhiste,
Oui.
Le bouddhisme envisage une série d'états d'existence en nombre incalculable. Ce n'est pas simplement l'être humain, puis ensuite le purgatoire, l'enfer ou le paradis. Il y a des centaines de milliers d'existences, dont pour nous, de très nombreuses existences en tant qu'animal. Et il n'y a pas de discontinuité.
Ça, c'est important.
Notre flot de conscience peut avoir été 500 vies une fourmi, 500 vies un bœuf, 500 vies un éléphant, aujourd'hui un être humain. Et de nouveau, si je tombe un peu dans des travers qui font que j'ai une sorte de qui me mène à renaître comme un animal, c'est une chose possible. Donc si vous voulez, le fait qu'il y ait un continuum de conscience qui n'est jamais interrompu et qui se manifeste ou prend comme support physique différents états qui peuvent être non seulement le monde des animaux et le monde des humains, mais on envisage si différents types de mondes dans lesquels on peut renaître, dont les animaux et les êtres humains sont les seuls qui sont visibles à nos yeux. Alors, je pense que cette idée de continuum de conscience, bon, c'est pas la même chose que le continuum envisagé par les scientifiques, mais ça n'envisage pas un saut ontologique. C'est-à-dire que c'est moi, Bibi Fricotin ou Mathieu Ricard, qui ai pu être une fourmi dans une vie passée.
Oui, mais ça implique quand même une forme de hiérarchie. C'est-à-dire que vous dites, si on a à la limite un mauvais karma, on va redescendre au niveau animal.
C'est une hiérarchie non pas fondamentale, puisque la nature de Bouddha est la même. C'est une hiérarchie quant aux possibilités de se libérer de ce qu'on appelle l'océan du monde conditionné par la souffrance, du samsara. Et nous-mêmes, êtres humains, il n'est pas du tout dit que nous allons utiliser ce potentiel pour le faire. Et la plupart des êtres humains se consacrent plutôt à devenir riches, célèbres, influents et autres qu'à se libérer de la souffrance. Donc de ce fait, on parle aussi de vie humaine qui est une sorte de semblant de vie humaine puisqu'on ne l'utilise pas pour en extraire la quintessence pour atteindre l'éveil.
Mais est-ce que l'être humain a une qualité spécifique, type intellectuel, que n'ont pas les animaux ? Pour le bouddhisme.
Alors on peut dire, et je crois que là on rejoint sans doute, mais ce n'est pas une qualité ontologique, c'est la faculté de poursuivre une quête et une démarche pour éliminer tous ces différents facteurs qui empêchent d'actualiser cette nature que nous avons tous et qui est d'ailleurs celle de ma propre conscience dans une existence passée, d'après le bouddhisme. Donc, si vous voulez, c'est comme une pépite d'or qui est la même chez un animal, chez un homme. Mais moi, si j'étais une fourmi dans une vie passée, c'était un moment où cette pépite d'or était enfouie dans une sorte de gangue, de sorte qu'elle ne pouvait pas exprimer toute sa valeur. Aujourd'hui, chez un être humain, cette couche est un peu plus légère. Je peux l'affronter, la stiquer, la faire briller. Ce n'est pas dit que je vais le faire. Et beaucoup d'êtres humains manquent ne mettent pas à profit cette opportunité. Donc, c'est toute une question de degré. Et là, à mon sens, on rejoint l'esprit, évidemment pas la lettre et la description, loin de là, de l'évolution où c'est une question de degré. Alors, les gens qui prônent...
Ce qu'on appelle le non-spécisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence des espèces.
Ça les offense qu'on parle de degré. Mais bon, d'abord... c'est des degrés dans beaucoup de choses, pas seulement l'intelligence. Je veux dire, s'il s'agit de se retrouver, trouver son chemin dans Paris, moi, je suis plutôt nul. Une barge rousse ou un oiseau migrateur qui navigue soit sur les étoiles, soit sur la lumière polarisée, qui fait 10 000 km en volant sans se poser pour arriver en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en partant de l'Alaska, je dirais, elle a des facultés dont je n'ai pas la moindre idée. Donc, pour elle, ces facultés-là sont beaucoup plus utiles que de composer les préludes des flûtes de Bach. Ça ne lui servirait à rien du tout. Donc, vous voyez, ce qu'on appelle le fait que l'être humain, à l'évidence, ait une intelligence, l'intelligence telle qu'on l'entend, la plus développée qui soit, ça veut dire que pour lui, c'est la meilleure façon de survivre, de s'épanouir, de préserver ce qu'il est en tant qu'être humain. Mais pour une chauve-souris qui sort par 10 000 à l'entrée d'une grotte dans le noir, ce qui compte, c'est d'avoir un sonar pour ne pas se rentrer dedans.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie ce matin de Mathieu Ricard. Nous parlons de l'altruisme envers les animaux à l'occasion de la sortie de son très beau livre Plaidoyer pour les animaux, vers une bienveillance pour tous chez Alary Éditions. Lélie Anvar.
Oui, alors à nouveau, c'est vrai, vous faites allusion à cette question de l'intelligence en fait, qui a des degrés divers et qui a des utilités diverses. Mais en réalité, quand même, ce que vous dites, c'est que l'homme... Alors, je ne sais pas si c'est une question de degré ou si c'est hiérarchique ou je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quand même une singularité humaine qui fait que l'homme peut même avoir une démarche de considérer l'animal dans une perspective de bienveillance, ce que les animaux n'ont pas. Un loup n'aura jamais la démarche d'avoir de la bienveillance, encore qu'il paraît qu'il y a des louves qui s'occupent des bébés. Mais enfin, dans le monde, les prédateurs sont les prédateurs. Un lion ne sera jamais bienveillant avec une antilope, je veux dire. Mais enfin... alors que nous pouvons penser la bienveillance et nous pouvons nous battre là-dessus. Oui. Puisque parmi les humains, il y a ceux qui pensent qu'on peut massacrer les animaux sans réfléchir, qu'on peut faire de la corrida et que c'est très bien. Et puis il y a ceux qui disent non, nous ne sommes pas d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, il y a une différence fondamentale qui n'est pas qu'une question de degré.
Il y a une différence considérable, je ne dirais pas fondamentale, dans le degré d'intelligence.
Ou de le degré de bienveillance, sûrement.
L'homme est la seule est le seul espèce qui peut faire le plus grand bien à très grande échelle comme le plus grand mal. Donc c'est de nouveau une question d'échelle aussi. Alors quand vous dites, je pensais pendant que vous parliez à tous les exemples que vous avez donnés, les loups sont bien connus justement pour leur vie sociale très riche, leur bienveillance certainement vis-à-vis de l'ensemble de la meute, et parfois même vis-à-vis de certains êtres humains qui vivent avec eux. Vous parlez des lionnes, il y a une lionne très fameuse en Afrique du Sud qui avait adopté 4 petites antilopes. Bon, tout ça, ce sont des exceptions.
Oui, c'est ça, ce sont des exceptions. Même des exceptions.
Ceci dit...
Et ce n'est pas pensé.
Non, il y a évidemment une sécurité de l'homme. Qui ne reconnaîtrait pas l'incroyable richesse de la nature humaine? Ce n'est pas la question. Et c'est exact que ceux qui reprochent au spécisme, ils disent « mais oui, vous dites qu'il ne faut pas être spéciste, mais l'homme serait le seul qui aurait le devoir de ne pas être spéciste, parce que les animaux ne peuvent pas l'être. »
Peut-être expliquant à nos auditeurs ce que c'est le spécisme.
Alors le spécisme, c'est de dire que nous avons des droits particuliers, notamment d'utiliser des animaux, en fonction de leur espèce. C'est-à-dire que si ce n'est pas l'espèce humaine, eh bien, en gros, il y a une supériorité ontologique qui fait qu'on peut faire ce qu'on veut avec les autres espèces. Mais c'est aussi un spécisme entre animaux. On trouve les dauphins, les petits chats extrêmement mignons, on n'aime pas les cochons, donc on va s'occuper, aimer nos chats et nos chiens, manger les cochons, porter les vaches. Donc, si vous voulez, c'est faire des distinctions purement sur leur aspect, sur leur espèce. Alors, c'est tout à fait vrai que la spécificité de l'homme est une intelligence, une créativité, une richesse émotionnelle qui, bien qu'on en trouve les précurseurs, parce qu'ils n'avaient pas de précurseurs, nous ne les aurions pas. Parce que des millions d'années d'évolution, ça ne vous tombe pas du ciel. Si c'est utile à notre survie aujourd'hui, ça a été aussi utile à d'autres animaux sous des formes peut-être différentes ou peut-être moins sophistiquées. Ça, c'est vrai. Ceci dit, effectivement, nous disposons, grâce à cette intelligence, d'un outil extrêmement puissant qu'aucun autre animal, dont un animal ne jouit. Un outil peut être toujours utilisé pour construire ou pour détruire. Et c'est la motivation qui va faire la différence. Est-ce que vous avez utilisé cet outil pour construire, pour détruire, pour faire du bien ou pour faire du mal? Donc, le fait que nous ayons cette intelligence, effectivement, nous donne la possibilité de prendre soin non seulement de ceux qui ne sont pas nos enfants, les personnes vulnérables dont nous avons la responsabilité, les personnes âgées, mais aussi d'étendre le cercle de notre altruisme à d'autres personnes qui vivent à l'autre bout du monde, de se préoccuper des réfugiés au Soudan et de faire quelque chose pour remédier à leur souffrance. Mais aussi, justement, de se dire, voilà, vous avez d'autres êtres sensibles qui souffrent. La souffrance, est-ce qu'elle est? Elle est indésirable dans toutes les conditions. Il ne s'agit pas de choisir, aider soit les animaux, soit les êtres humains, ce qui est absurde. Mais si l'on peut aider les deux, pourquoi pas?
Vous avez parlé de l'évolution en Occident, du fait que les animaux, on s'est mis à les traiter mal, parce que finalement, on les a éloignés de soi pour pouvoir les traiter mal, sinon c'est un peu compliqué à gérer émotionnellement. Et en même temps, dans le même temps, c'est l'Occident qui a inventé l'idée d'animal de compagnie et de vivre avec ses chiens et d'avoir un excès d'amour. Et vous dénoncez aussi cela comme étant une utilisation, une objectivation en fait de l'animal et d'en faire un objet de son divertissement pour servir.
Je ne crois pas avoir dénoncé cela. Mmh. Je fais état d'études qui montrent qu'on les traite effectivement souvent un petit peu comme on traiterait des enfants, ce qui est intéressant et ce qui correspond à ce qu'on voit. Non, je crois que c'est très bien. On sait que les animaux de compagnie, pour les personnes âgées, pour les prisonniers, par exemple, diminuent la violence et les maladies. Pour les personnes qui sont dans des maisons de retraite, ça les aide à justement avoir moins de difficultés. Donc, c'est une bonne chose de partager la vie.
Oui, non, ce que je veux dire, c'est que le paradoxe, c'est qu'en même temps qu'on crée les abattoirs, au 19e siècle, c'est le moment où toutes les dames ont leurs petits chiens de compagnie. Je ne parle pas évidemment de l'utilité des chiens. Par ailleurs, je veux dire par là que c'est étrange ce paradoxe de tuer les animaux à une échelle massive et d'avoir des animaux, d'inventer le concept d'animal de compagnie pour le divertissement.
C'est plus qu'un paradoxe. Certains ont dit que c'était même une sorte de schizophrénie parce que nous fonctionnons avec une éthique complètement à deux vitesses. Donc, encore une fois, on aime nos chiens, on mange les porcs et on porte les vaches. Et on voit ça dans cet épisode dramatique d'un jeune homme qui avait maltraité un petit chat dans la banlieue de Marseille, qu'il avait jeté en l'air, jeté contre les murs, et puis c'était filmé. Donc, la France était indignée. Hein. Il y avait eu des réseaux sociaux, on l'avait retrouvé, il était condamné. Et pendant le même jour, 500 000 animaux étaient tués dans des conditions atroces dans les abattoirs. Et du coup, personne n'en pipait mot. Et la conclusion la plus tragique, je viens de l'entendre récemment, cet homme a continué à être persécuté par les réseaux sociaux, il s'est suicidé. Donc vous voyez, là, tout le monde y perd. C'est une question d'abord de sensiblerie, ensuite de hargne. Le petit chat, il a quand même survécu. C'est vraiment très déplacé par rapport... On devrait s'occuper de la souffrance là où vraiment elle est à un niveau massif. Quand on songe, et qui sait, connaît ces nombres, 60 milliards d'animaux terrestres tués chaque année, 1000 milliards d'animaux marins pour notre usage, que ce soit la nourriture, ce que nous portons, les objets que nous utilisons. C'est ça dont il faut se préoccuper.
Alors, au-delà du nombre, parce qu'on pourrait dire, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'humains à nourrir, et donc, au-delà du nombre, vous dénoncez très clairement aussi, évidemment, la souffrance qui est infligée dans les abattoirs. Et là, je pense qu'il faudrait dire un petit mot pour qu'on sache ce qui se passe exactement dans les abattoirs, de la manière dont les animaux sont abattus. Qu'est-ce que vous pensez des abattages rituels à la les cachères, dans lequel on n'étourdit pas les animaux? Est-ce que, par ailleurs, le fait d'étourdir les animaux, ça leur enlève réellement la souffrance? Dites-nous un petit peu cette enquête que vous avez faite à partir de beaucoup de documents sur la face cachée des abattoirs.
Évidemment, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Oui, beaucoup l'ont fait avant moi.
Oui, d'ailleurs, vous donnez une bibliographie très complète à ce sujet.
Donc, je ne fais qu'ajouter de l'eau au moulin de tout ça. Mais c'est vrai que, d'abord, c'est quasiment impossible de s'introduire dans un abattoir. C'est, en tant que journaliste...
C'est mieux garder qu'une centrale nucléaire.
Oui, à moins que vous soyez justement commissionné par eux pour peindre une image réconfortante des abattoirs. C'est quasiment impossible. D'autre part, on essaie clairement de désinformer la population. Je cite le cas d'un abattoir où tous les murs sont peints à l'extérieur de fresques idylliques. On voit des vaches souriantes, la marguerite à la bouche, alors que le côté, c'est l'enfer. Alors l'enfer, qu'est-ce que c'est? Par exemple, pour tout ce qui est des poulets et des poules, elles vivent en gros un 1/60 de leur durée de vie. On les maintient en vie principalement avec des injections massives d'antibiotiques. Aux États-Unis, 80% de tous les antibiotiques produits sont utilisés pour l'élevage, pour les maintenir en vie le temps de les tuer. Parce qu'on ne peut pas les soigner individuellement. Quand vous avez 70 000 poules qui n'ont jamais vu le jour, qui sont gérées par 10 personnes, quand ça commence à aller mal, on les tue en masse. Alors, les porcs, par exemple, les truies donnent bas à environ des portées de 25-28 porcelets au lieu de 15 normalement. Donc, elles ont été manipulées pour avoir... Et on tue généralement en les tuant sur le ciment, en leur frappant la tête sur le ciment, une dizaine des porcelets les plus chétifs parce qu'on ne va élever que les autres. Et la truie, elle est enfermée dans ce qu'on appelle une vierge d'acier, donc ce n'est pas très rigolo. Les vaches, alors, ça va tellement vite. On les rend soi-disant inconscients par électronarcose, donc une sorte de matraque électrique qui les rend inconscients. Ça dure environ 30 secondes à 1 minute. Donc ce qui fait, et c'est montré dans quasiment tous les abattoirs, qu'au moment où ils sont suspendus par une patte, déjà une vache qui pèse je ne sais pas combien, 400-500 kilos, et qu'on commence à la couper en morceaux, 15% ont repris conscience. Donc on coupe des animaux conscients en morceaux. L'abattage rituel, on sait que soi-disant, on cache le couteau derrière le dos jusqu'à un moment. Enfin bon, à un moment donné, on commence à leur couper le cou sans électronarcose, parce qu'il faut qu'elles soient conscientes. Et comme soi-disant, on ne fait de la viande halal et cachère que pour ceux qui l'exigent, encore que ça soit douteux moralement, et que certains rabbins comme David Rosen se sont dit la seule viande cachère, ça serait de ne pas tuer les animaux. Et certains l'ont dit aussi pour la viande halal. Mais ceci dit, donc certains l'exigent, mais comme ça coûte plus cher d'avoir deux chaînes d'abattage, donc en gros, on n'en fait qu'une pour gagner de l'argent et 60% de la viande que les autres personnes de la population française mangent sont des viandes tuées au prix de grandes souffrances chez les animaux. Donc tout ça, c'est bien connu, mais c'est complètement caché.
Alors vous expliquez que cette surconsommation de viande pose plein de problèmes. C'est-à-dire que non seulement elle est inutile au point de vue de la santé, voire nocive, mais en plus elle crée des problèmes environnementaux massifs de pauvreté. Donc parlez-nous un peu de cet aspect-là aussi des choses qui sont importantes.
C'est de nouveau paradoxal parce que des gens vous disent « Ah, mais enfin, il y a quand même remédié à la pauvreté humaine. Pourquoi est-ce que vous perdez votre temps, vous occupez des animaux ?» Bon, un des éléments de la pauvreté humaine, donc on pourrait déjà éviter d'envoyer 750 millions de tonnes de maïs, de blé et de soja produits dans les pays en voie de développement en Amérique du Sud et en Afrique pour aller nourrir l'élevage industriel destiné à la production de viande dans les pays riches. Parce que l'équilibre est clair. En Amérique, on mange 120 kilos de viande par an par habitant. En Europe, 80. En Afrique, entre 5 et 10. Et en Inde, 3. Donc, ça pourrait nourrir 1,5 milliard de personnes dans la pauvreté. Et il y avait des pays africains où on continuait à exporter du grain vers l'Angleterre et l'Europe au moment où il y avait des famines. Donc, si vous voulez remédier à la pauvreté, numéro un, cessez d'exporter vos denrées alimentaires pour fabriquer de la viande pour les pays riches. C'est déjà quand même pas mal. Deuxièmement, si on songe aux générations à venir, on sait que l'élevage industriel avec toute la chaîne de production, c'est-à-dire la déforestation, le transport des céréales justement vers les pays riches où l'élevage en massif est fait, contribue à 15% au réchauffement global par travers le gaz d'effet de serre. C'est-à-dire après les habitations, les usines, les maisons, les habitations humaines. Et avant même les transports, on vous dit qu'il faut des voitures hybrides, etc. Mais c'est seulement le troisième facteur. Donc l'élevage industriel a une composante considérable pour le réchauffement global.
Sur l'eau également ?
L'eau. Pour faire un kilo de viande de bœuf, on utilise 15 000 litres d'eau. Et l'eau potable, évidemment, est une denrée de plus en plus rare sur la planète. Il y a 50% des gens sur la planète qui ne disposent pas de ressources convenables d'eau potable. Bon. Et alors, on vous dit, finalement, c'est quand même la santé humaine. Donc, ça veut dire qui ? Les pays riches, les gens qui peuvent se le permettre, en ignorant tout le reste de la population et les générations à venir. Mais admettons que notre égoïsme individualiste dise « c'est bon pour la santé ». C'est même pas vrai. Puisque d'abord, s'il y a 20% de protéines dans la viande, certes, mais dans les extraits de soja, il peut y en avoir jusqu'à 35%. Et cerise sur le gâteau, les meilleures études épidémiologiques menées récemment, et là quand même la science, il faut tenir compte des connaissances, ont montré sur certaines sur 100 000 personnes suivies sur 10 ans, certaines sur 10 000 personnes suivies sur 20 ans, que les consommateurs de viande qui mangent de la viande tous les jours ont en gros une mortalité accrue de 15% annuellement de cancers et de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est bon pour qui y gagne dans cette histoire ?
Tout le monde perd.
Tout le monde y perd.
Sauf les éleveurs.
Sauf les grands lobbies. Tyson Foods qui détient 95% de l'industrie du poulet aux États-Unis, etc., etc.
Conclusion d'un point de vue scientifique au niveau de la santé. Qu'est-ce qui serait le bon ? C'est le végétarisme total ou peu de viande ou que de la viande bio ? Enfin, bon, qu'est-ce que vous recommanderiez d'un point de vue alimentaire ?
Le végétarisme total, c'est une question d'éthique, à mon sens. Moi, j'ai fait ce choix. Mais simplement, je pense que si on change à l'avenir de la planète et si on change à la santé humaine, en tout cas, réduire considérablement la consommation de viande. On ne consommait pas autant de viande dans le passé. Les 400 millions de végétariens en Inde, ils ne sont pas anémiques. Ils ne se portent pas plus mal que le reste de la population, probablement plutôt mieux. Donc, si vous voulez ne manger qu'une fois par semaine ou une ou deux fois par semaine au maximum, ça déjà la façon la plus rapide et efficace de pallier au réchauffement global et d'éviter 15% de mortalité accrue chez les êtres humains. Ceci dit, après, c'est un choix éthique qu'on doit faire en son fort intérieur. Est-ce que moi, je souhaite vivre de la souffrance et de la mort des autres ? Ça me regarde. Mais globalement, pour l'humanité, pour la pauvreté, pour la santé humaine et pour le sort des générations à venir, le rapport du GIEC a clairement dit que continuer cette croissance de consommation de viande au rythme où elle se poursuit, ce seul facteur interdirait l'espoir de garder le réchauffement global en dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Rien que l'élevage industriel, la production de viande.
Et est-ce que vous établiriez une distinction, que ce soit d'un point de vue éthique ou d'un point de vue de santé économique, etc., entre le poisson et la viande ?
Le poisson, on sait, est probablement légèrement meilleur pour la santé que la viande rouge, en tout cas, ça c'est certain. Ceci dit, sur le plan éthique, ça ne tient pas la route. On sait maintenant que le poisson, même s'il n'a pas d'expression faciale, a toutes les terminaisons nerveuses et les neurotransmetteurs pour reconnaître la douleur. On sait bien qu'il souffre, non seulement les poissons, mais les crustacés, les crabes, même les crevettes détectent la souffrance. Donc, sur le plan éthique, il n'y a aucune différence. Moi, quand je vais dans un restaurant, je dis « je suis végétarien », il dit « ah bon, vous mangez du poisson ». Alors, j'essaie de s'apprendre avec un peu de légèreté. Je dis « écoutez, cher ami, tout ce qui nage, tout ce qui court, tout ce qui vole, c'est mes copains. Et moi, je ne mange pas mes amis. » Alors, tout le monde, haha, c'est très bien. Donc, ils comprennent.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel en compagnie de Mathieu Ricard. Nous parlons de son ouvrage passionnant, Plaidoyer pour les animaux, à la réédition. Lélie Anvar.
Oui, alors sur cette question du végétarianisme, c'est vrai que, d'ailleurs vous en citez plusieurs exemples, c'est spécifique évidemment au bouddhisme, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans l'Antiquité, il y avait des écoles de sagesse et des penseurs de la sagesse antique, dont Pythagore, etc., qui pensaient que le végétarianisme était évidemment une option éthique très importante. Et c'était lié globalement au fait de mener une vie relativement ascétique, parce que c'est quand même la condition du développement de la sagesse, d'une certaine façon. Donc il y a un lien quand même entre végétarianisme et sagesse depuis les temps les plus reculés.
Alors, ascétique, oui, certain. Les pères du désert, chrétiens.
Oui, absolument.
Et d'autres, même la trappe, c'était une façon de se priver de ce qu'on appelait les bonnes choses. Alors ça, si vous voulez, éthiquement, c'est à la limite, quoi. Par contre, dans l'Antiquité, il y a eu des penseurs comme Pythagore, comme Ovide, comme Plutarque, qui a écrit un traité sur la consommation de la viande carnée, puis d'autres comme après Léonard de Vinci, et qui, eux, clairement, disaient « je ne veux pas faire de mon corps un cimetière ». Et donc ça, ce n'était pas du tout la question de santé, de se priver, soi-disant, des bonnes choses. Mmh. Et donc c'était vraiment le même point de vue que défend le bouddhisme du grand véhicule et les djinns, à savoir ne pas infliger des souffrances inutiles.
Justement, alors vous citez un court passage, mais que je voudrais quand même lire. D'ailleurs, c'est vous qui l'avez choisi, parce que c'est un beau passage, justement, où Ovide développe cette idée. J'avoue qu'avant de vous lire, je n'avais jamais remarqué qu'Ovide avait écrit cela dans les Métamorphoses. Donc, comme quoi, il faut toujours relire ces classiques. Vous avez le blé, les pommes qui pèsent sur les branches souples. Vous avez le raisin qui gonfle dans les vignes vertes et les herbes plaisantes, les légumes que la cuisson fait doux et tendre. Vous avez le lait et le miel de trèfle. La terre est prodigue de provisions et ses nourritures sont aimables. Elle dépose sur vos tables des choses qui ne réclament ni le sang ni la mort. Hélas, quelle méchanceté que de faire avaler de la chair par notre propre chair, que d'engraisser nos corps avides en y enfournant d'autres corps, que de nourrir une créature vivante de la mort d'une autre.
Difficilement dire ça mieux, n'est-ce pas?
Mais enfin, les plantes sont aussi des êtres sensibles, des êtres vivants, donc vous mangez bien quelque chose, Mathieu.
Alors là, je ne vous suis pas tout à fait, cher ami. Alors, je crois que la science a été très observante et rigoureuse en distinguant le monde végétal du monde animal, ce que fait aussi le bouddhisme. Et il y a des bonnes raisons à cela. Alors, c'est assez complexe, mais si vous voulez, une plante réagit par exemple, le tournesol qui se tourne en fonction de l'orientation du soleil, c'est vraiment instantané et mécanique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un côté plus chaud et plus froid de la plante, les auxines, les hormones végétales poussent plus du côté froid, la plante se tourne vers là où il y a de la chaleur. La plante n'a pas de choix, elle n'a pas la possibilité de retarder, par exemple, une action. Il n'y a pas une action jamais délibérée. Et même, si vous voulez, les membres du règne animal les plus élémentaires, souvent peuvent s'approcher d'un objet de nourriture, mais s'il y a un danger aussi, hésiter, reculer, attendre, et s'éloigner d'eux ou aller vers. C'est même dans le bouddhisme, un animal, c'est-à-dire
c'est
un être sensible, c'est l'idée d'aller vers ce qui favorise votre survie et de vous éloigner de ce qui la défavorise. Donc, et on voit ensuite un continuum sans interruption, de là jusqu'aux formes de plus en plus complexes. Alors dans la science, on va dire que le système nerveux acquiert de la complexité, donc il y a des réactions de plus en plus sophistiquées, jusqu'à la conscience de soi, la conscience de l'autre, l'empathie, les émotions, etc. Mais il n'y a pas de discontinuité. Il y a seulement une gradation. Tandis qu'entre la plante, qui, comme ses réactions mécaniques, comme si vous chauffez un corps solide, il se dilate et puis il se rétracte dans le froid. Un caillou n'a pas de conscience, un morceau de bois n'a pas de conscience.
On avait fait des études très précises sur la sensibilité des plantes, qu'on montrait qu'elles étaient par exemple très sensibles à la musique. Il y a des musiques qui les épanouissent, des musiques qui les
Oui, ce qui prouve qu'elles ont quand même une sensibilité.
Que alors, si on approche des couteaux d'une carotte, il se passe quelque chose, une réaction
dans
la carotte.
Mon esprit scientifique reprend le dessus. Vous savez, quand on dit prouver, une étude scientifique bien menée.
Donc, il n'y en a pas eu à votre
connaissance. Avec une reproductibilité faite dans des conditions avec un groupe de contrôle, un témoin parfait, bien fait, c'est assez rare. C'est ça qui distingue la bonne science de la mauvaise science. Franchement, à ma connaissance, il n'y a aucune étude scientifique, disons, fiable qui n'ait jamais mis ce genre de choses en évidence.
Qui prouvait la sensibilité
jusqu'à maintenant,
leur sensibilité à la souffrance. Et est-ce que ça ne contredit pas quand même ce que vous disiez tout à l'heure sur, dans le bouddhisme, la continuité qui existe dans le monde végétal, animal et humain, qui fait qu'on pourrait se réincarner en plante?
Absolument pas. D'après dans le bouddhisme, alors debout, je remets ma casquette bouddhiste, le Bouddha lui-même, donc, alors ce n'est pas une déclaration scientifique, mais d'après la vision, la clairvoyance du Bouddha, a dit que les membres du règne animal ont cette conscience et cette nature de Bouddha, et les plantes ne l'ont pas. D'accord. Ça, il l'a dit très clairement.
En se distinguant de l'hindouisme, alors, sur ce point-là. Puisqu'il y a des courants de l'hindouisme qui considèrent qu'on peut s'incarner.
Il y a des courants d'hindouisme comme les Bishnoi qui respectent les plantes. Alors, respecter, c'est différent. Quand le Dalai Lama parle de non-violence vis-à-vis des êtres humains, non-violence vis-à-vis des animaux et non-violence vis-à-vis de l'environnement, il étend cette notion de bienveillance à l'environnement, non pas parce qu'une pierre, ça fait une différence si vous donnez un coup de pied ou pas de coup de pied, mais parce que le respect de l'environnement favorise, si vous voulez, l'harmonie et la survie des animaux et des êtres humains. Donc c'est dans ce sens que ne pas faire violence à l'environnement, c'est aussi préserver l'ensemble de la biosphère, etc. C'est dans ce sens uniquement. Ce n'est pas que les arbres, la terre, les cailloux, etc., souffrent ou ne souffrent pas.
Alors, je voudrais en revenir sur la question post-mortem. Parce que beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que deviennent nos animaux de compagnie? Là, on en revient plutôt aux animaux de compagnie qui nous intéressent plus que les vaches, évidemment, dans la proximité affective que nous avons. Et combien de fois j'ai entendu la question d'enfants, de gens en disant, mais qu'est-ce que devient mon chien, mon chat, auquel je suis extrêmement attaché, comme on s'attache à des êtres humains, parce qu'ils sont là tous les jours avec nous. Dans le christianisme, la réponse est assez dure, puisque la théologie chrétienne classique, après il y a des courants marginaux, mais la théologie chrétienne classique considère qu'il y a l'homme est tripartite, il y a le corps, il y a l'âme en tant que psyché, puis il y a l'esprit qui est la fine pointe de l'âme, qui est divine et qui, elle seule, va pouvoir continuer son chemin dans l'au-delà pour rencontrer Dieu, parce qu'elle est créée à l'image de Dieu, mais que cet esprit n'existant pas dans le monde animal, il n'y a qu'une âme collective des animaux qui rejoint l'espèce, qui fait que l'animal n'existe pas en tant qu'individu, et donc sa conscience ne va pas continuer d'exister après sa mort. Qu'est-ce que dit précisément le bouddhisme ?
Alors, le bouddhisme dit d'abord qu'il n'y a pas d'entité personnelle, c'est un moi, un ego, une âme ou un atman, qui migrerait au long de ce flot de conscience. Donc, pour vous donner une idée, si le flot de conscience dynamique serait comme les flots de la Seine ou du Gange, il n'y a pas une petite barque ou une petite tête qui nagerait dans le Gange, disant « Le Gange, c'est moi !» Donc, si vous voulez, il n'y a pas cette entité autonome, unitaire, qui serait le soi, le moi, tout ce qu'on appelle. Donc, il y a simplement un flot dynamique de conscience, instant après instant. D'après le bouddhisme, ce flot peut prendre un support physique, qui est une existence animale, et dans l'existence à venir ou dans une existence passée, avoir été un être humain ou une autre forme de vie. Donc, c'est la même. Donc, quand on parle d'une personne, c'est-à-dire l'histoire d'un flot de conscience qui n'est pas une entité, eh bien, on peut dire que c'est la même flot de conscience qui a été un animal, qui est aujourd'hui un homme. Donc, il n'y a pas de discontinuité et certainement pas de différence fondamentale comme celle que vous mentionnez.
Donc, d'une certaine façon, on peut continuer à aimer nos animaux de compagnie, même une fois qu'ils sont morts.
Alors, on peut faire dans le bouddhisme, on ferait des bons vœux pour qu'ils aient une renaissance favorable, qu'ils ne soient pas exploités, triés, pris dans des pièges, réduits en chair en bouillie, comme les 50 millions de poussins mâles qu'on passe dans le broyeur pour nourrir ensuite les animaux de compagnie. Donc, tout ça, on peut souhaiter ça, que notre animal ne renaisse pas comme ça. On peut lui souhaiter une renaissance humaine pour qu'il puisse étudier, pratiquer une voie spirituelle qui le mène à l'éveil. On peut faire plein de bons vœux, comme on fait des bons vœux pour des êtres chers. Alors, puisse-t-il à nouveau renaître comme un être humain, poursuivre le chemin spirituel jusqu'au bout.
Donc, vous avez une sensibilité personnelle à l'animal, en dehors de la dimension éthique, hein, que vous avez très clairement expliqué? Est-ce que vous avez des animaux auxquels vous avez été ou vous êtes attaché?
Si vous voulez,
parce que dans votre ermitage, il y a un loup qui vient vous voir.
Pas un loup, c'est un tigre.
Un tigre.
Une tigresse. Enfin, elle n'est pas venue me voir trop près, heureusement. Mais je sais qu'elle est dans le secteur, je l'ai entendu. D'autres l'ont vu. Je nourris tous les bons, gentils petits chiens qui savent exactement l'heure du petit déjeuner le matin à 8h et l'heure du déjeuner à midi et qui arrivent en frétillant de la queue. Non, ce que je veux dire, c'est que l'idée fondamentale qui, moi, m'inspire et qui est celle du bouddhisme, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, d'engendrer une bienveillance pour tous. C'est un peu l'idée du soleil qui brille sur tous les êtres, sans discrimination. Alors, c'est vrai qu'il y a, à un moment donné dans votre vie, des êtres humains dont vous avez davantage la responsabilité, qui sont plus proches de vous pour toutes sortes de raisons de l'existence, et ils sont plus près du soleil, ils reçoivent davantage de chaleur. Mais ce n'est pas sous une forme d'une discrimination. Donc, les petits chiens qui viennent commander un petit bout de mon repas, j'ai une bienveillance particulière pour eux parce qu'ils sont dans le champ de mon attention. Et donc, si j'ai un petit peu de bienveillance, cette bienveillance va s'appliquer à eux. Ce n'est pas au prix de me désintéresser du reste de l'humanité et du reste des animaux sensibles. Je ne peux pas, bien sûr, nourrir l'ensemble de la planète. Au sein de notre association Karuna, nous soignons 100 000 patients par an. Nous avons 25 000 enfants dans nos écoles, dont ceux qui me disent « Oh là là, vous occupez des animaux, est-ce que ce n'est pas indécent de ne pas vous préoccuper des humains ?» Ben bon, je peux leur répondre ce que disait une fois Sœur Emmanuel à quelqu'un qui l'est pris à partie. « Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites pour l'humanité ?» Donc, se servir l'humanité ou servir les animaux, pour moi, c'est simplement appliquer la bienveillance à tous. Je ne fais pas l'un au prix de l'autre. Je ne m'occupe pas moins des êtres humains en essayant très humblement et modestement, dans la mesure de mes moyens, de m'intéresser à la souffrance des animaux. Je crois que, j'aime bien cette citation de Lamartine, on n'a pas deux cœurs, un pour les humains, un pour les animaux. On a un cœur, on n'en a pas. Donc quand on a un grand cœur, il y a de la place pour tout le monde. En plus, de nouveau une citation, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Albert Schweitzer disait « L'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le donne. » Donc, pourquoi ne pas le donner à tout le monde ? Ça continuera à doubler de plus en plus. Donc, franchement, en fait, ce livre peut paraître assez tragique parce qu'il fait état de souffrances innommables qu'on c'est affiche terrible, aux animaux. Hein, c'est vraiment un appel à la bienveillance.
Eh bien, merci Mathieu Ricard. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Plaidoyer pour les animaux » aux éditions Alary. Et je signale en passant aussi un petit livre de notre ami François-Olivier Gisbert, « L'animal est une personne » pour nos sœurs et frères les bêtes. Donc c'est écrit plus à sa manière, avec son ton très personnel. Je sais que François-Olivier Gisbert est végétarien depuis longtemps aussi pour des raisons éthiques. Donc voilà, vous soulevez un débat, enfin vous appuyez une plaidoirie qui trouve de l'écho de plus en plus dans nos sociétés occidentales et je crois qu'il faut vraiment s'en réjouir. Merci à vous. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.